Donc en fait, Jessica, tu es sortie il y a quelques mois après 3 ans de détention.
Ouais.
En gros, là, ce dont on va parler ce soir d'une manière très générale, c'est entre autres du fait qu'à partir du moment où tu n'as pas accepté certaines règles en détention, tu as vécu un enchaînement de soucis.
Ouais.
Mais pour commencer quand même, pour revenir un peu à l'origine de d'où vient cette interview ce soir, on s'est connus parce que... tu as fréquenté en détention des personnes avec lesquelles nous on correspond, dont on a des nouvelles et dont on a parlé des fois à l'antenne, et en particulier Christine, qui a eu beaucoup d'altercations avec soit l'administration pénitentiaire, soit des surveillants, parce que elle est plutôt rebelle en détention. Voilà, et entre autres en octobre, elle est passée en procès à Poitiers, parce qu'elle avait eu des gros soucis en détention à Poitiers, là où toi tu étais passée aussi, mais avant. Elle a eu pas mal de soucis avec les surveillants, elle a été carrément stigmatisée et transformée un peu en bouc émissaire par les surveillants, qui sont tous donnés à cœur joie pour porter plainte contre elle pour toute une série de outrages, menaces, violences. Et donc à cette époque-là, d'autres... Nana de la même prison avait voulu témoigner pour raconter un peu, pour montrer en fait que le cas de Christine n'était pas isolé et pour casser un peu l'image de un peu folle ou de super rebelle qu'on voulait lui coller, comme quoi c'était elle qui était violente et tout. Et l'idée un peu pour nous ce soir et en général, c'est de montrer que c'est pas... de montrer une autre vision. Souvent quand les prisonniers et prisonnières ont des conflits avec... la matonnerie, on les fait passer, eux, pour des gens dangereux. Et nous, on aime bien essayer de montrer que c'est un contexte qui fait qu'il y a des conflits en détention et qui fait que les gens se rebellent pas pour rien et que souvent, on raconte beaucoup de mensonges sur eux. Et donc, nous, on aime mieux leur donner la parole.
C'est exactement ça. Alors, juste pour Christine, moi, je l'ai rencontrée à Rennes.
Ouais.
Christine, je l'ai rencontrée à Rennes, on s'est connus 2-3 mois vite fait, après elle a été transférée dans une autre prison. Et c'est vrai qu'elle est passée par Poitiers, moi aussi je suis passée par Poitiers, et je comprends tout à fait ce que tu es en train de dire, c'est que moi comme Christine, je suis une détenue, j'étais une détenue assez rebelle et tout, et parce que comme tu dis, en plus d'être enfermée, enfin c'est le contexte, on va nous interdire tout un certain nombre de choses qui pour nous ne pas paraître normal, donc on va refuser de se soumettre à... enfin pour moi en tout cas et Christine et les personnes que j'ai connues, on va refuser de se soumettre, et après ils vont voir de là qu'on n'est pas des détenus qui disons oui à tout ce qu'ils veulent nous faire, ils veulent qu'on accepte tout là-bas au nom de la sécurité, au nom de je ne sais pas quoi, et alors qu'on peut pas tout accepter.
Ouais.
Et donc, ouais, c'est ça, c'est... Après, ils vont jouer avec... à partir du moment où ils voient qu'on est détenus un peu comme ça, ils vont jouer avec nous pour nous provoquer, pour... Enfin, ça a été ça avec Christine, ça a été ça avec moi, c'est ça avec plein d'autres détenus. Ils essayent de... Des fois, c'est dans la provocation, après, ça va nous pousser, nous, à commettre des outrages. Comme tu dis, après, ils vont dire de nous qu'on est dangereux et tout ça, alors que... C'est eux qui cherchent, qui nous poussent à ça en fait, à se rebeller et à manifester qu'on n'est pas d'accord quoi, en fait, avec tout ce qu'ils veulent nous faire. Je sais pas si je m'expliquerai bien.
Non, c'est très clair. Et justement, en plus, après, si t'es pas dans le rang exactement comme ils voudraient, ils trouvent des manières de te briser qui sont souvent complètement disproportionnées.
Ouais,
avec ce qui s'est passé.
Ouais, c'est ça. Ils essayent de... Je me dis, ça peut pas marcher. Ils veulent nous faire accepter des choses et ils choisissent la répression pour nous faire... la répression sévère pour nous faire accepter ces choses. Et, pour des personnes comme moi, en tout cas, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Et donc,
par exemple, tu racontais quand on a discuté auparavant qu'à Poitiers, tu avais subi énormément de fouilles et que donc les soucis étaient un peu partis de là, entre autres. Est-ce que tu peux raconter un peu?
Ouais, ça c'était au début, en fait, je suis arrivée, ouais, c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup de fouilles de cellules, et en plus, enfin, à chaque fouille de cellules, à Poitiers, ils font une fouille à corps aussi après. Et donc, c'est chiant, en fait, de toujours se mettre à poil devant eux. Et des fouilles à répétition, comme ça, bah, au bout d'un moment, enfin, en sachant qu'ils trouvent rien, et qu'il y a, enfin, à chaque fouille, il n'y a rien à trouver, tout ça, c'est chiant, et donc... J'ai refusé de me soumettre, enfin ça a été des choses qui ont fait que j'ai pété les plombs, parce qu'à force de subir ça, moi je refuse de me soumettre aux fouilles, parce que j'ai pas envie de me mettre à poil tous les 4 matins devant eux. Et voilà, comme je te dis tout à l'heure, c'est au nom de la sécurité, moi je peux pas tout accepter, c'est pas parce que pour des questions de sécurité, il faut me faire des fouilles de cellules, moi je m'en fous, enfin, ouais, c'est ça, moi je m'en fous. Au nom de la sécurité, je peux pas accepter de me mettre toujours à poil, et donc voilà, des trucs comme ça me fait péter les plombs. Mais plein de choses, plein de petites choses. Même des fois, je passais sous des portiques, je sonnais. Là, c'est moi qui me déshabillais devant eux. Et là, ils me mettaient un rapport parce que je me suis déshabillée. Ils me disaient que je faisais de l'exhibitionnisme. Enfin, tu vois, c'est de l'hypocrisie, tu vois. Parce
Ouais,
que un coup, ils
clairement.
nous font des fouilles, et un coup, je me déshabille pour qu'ils voient que j'ai rien. Et tu vois, c'est ça, c'est...
Et par exemple, si tu remets en question une fouille, qu'est-ce qui se passe derrière?
Il se passe que... Bah, quand on met en question une fouille, bah, ils nous... Si par exemple on refuse de soumettre et tout, ils vont, bah, on a des rapports d'incident, ça va au mitard, et c'est comme ça, enfin, on est puni, quoi. On
Ouais.
est puni pour... Ouais, c'est ça.
On peut perdre des remises de peine et après on
On
est
peut
mal
avoir
vu en plus.
tout ce qui s'ensuit, la remise de peine. Moi, c'est à Poitiers, j'ai pas pu travailler parce que j'avais beaucoup de rapports et qu'ils me disaient que voilà, j'aurais pas un bon comportement pour du travail, des choses comme ça.
Voilà,
Et que...
sachant que c'est un peu ce genre de truc qui en plus parfois conduisent à des procès parce que s'il y a à ce moment-là une altercation avec des surveillants, ils peuvent
Ouais, aussi.
soit inventer, soit ne pas inventer une violence, un outrage, et ça
Ouais,
t'emmène en procès,
c'est
quoi.
ça, c'est exactement ça. Ils vont essayer de encore plus titiller pour essayer de voir si. Même une insulte, hein, ne serait-ce qu'une insulte, ils vont essayer de faire en sorte qu'on les insulte, et après voilà, ça va être ça, un outrage, ils vont porter plainte, et ils vont demander de l'argent, nous on va se prendre des peines en plus. Et ouais, c'est comme ça, faut que.
Est-ce que toi, ça t'est arrivé de... Est-ce que t'es passé au tribunal pour des faits qui
Non,
sont...
moi je suis
Non.
jamais passé au tribunal pour outrage ou quoi que ce soit. Pourtant, j'ai déjà insulté des surveillantes, mais il n'y a jamais eu de plainte de déposée. Mais ouais, ça arrivait à plein de. Enfin, moi, je sais que
Ouais,
ça
tu l'as
arrivait
vu,
à pas
quoi.
mal de filles. Après, moi, ça m'est pas arrivé. J'ai pas pris plus. Moi, j'ai pris 3 enfers, mais j'ai pas pris de peine en plus. Ça va. J'ai pas.
Eh bah, tant mieux, franchement.
Ouais, j'ai réussi à. Mais franchement, c'était dur, hein.
Ouais.
Enfin, je me disais, putain, il faut vraiment que je gère pour pas me prendre une peine en plus, pour pas aller frapper, pour pas, parce que vraiment, ils te poussent à être violent des fois.
Et par exemple, pour se donner une idée, je ne sais pas combien vous étiez à Poitiers, mais y a, est-ce que sur ce nombre de personnes, il y a d'autres personnes qui, pareil, remettent en question les fouilles, par exemple, ou est-ce que tu te
Ouais.
retrouves un peu toute seule?
Non, 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 à Poitiers, ben non, il y avait. Bah déjà à Poitiers, il y a des Basques, donc c'est des personnes un peu qui bougent et tout en prison, qui bouge. Et après, il n'y avait pas beaucoup de filles. Enfin, à Poitiers, c'était une petite maison d'arrêt, ouais, une petite maison d'arrêt, un petit CV. Et ouais, il y avait les Basques, donc c'est des militantes. Après, il y avait deux, trois meufs rebelles, un peu comme moi, qui pouvaient refuser de se soumettre. Mais après, la plupart du reste de la population, ils se soumettaient aux règles. Sans... Après, c'était pas... Enfin, quand t'es un peu catalogué, t'as aussi plus de fouilles. Quand t'es tranquille, t'as moins de fouilles. Enfin, ça dépend. Donc,
Ouais. Ouais, et tu disais aussi qu'à Poitiers, tu avais eu des grosses difficultés pour accéder à des soins corrects. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même très souvent qu'on entend ce genre d'histoire, mais si tu veux raconter un peu.
ouais, bah, c'est pas... Bah, ouais, à Poitiers... Bah, moi, je suis rentrée... J'avais eu un accident juste avant de rentrer. Donc, j'étais en béquille. J'étais en plâtre, en béquille. Je l'ai gardé 3 mois. Après, je devais faire de la rééducation à l'hôpital. Et en fait, bah, Poitiers, ils ont tout simplement refusé de m'extraire au centre de rééducation pour des raisons... Enfin, avec des fausses excuses En parlant de mon comportement en détention, que voilà, il disait bah, un comportement en détention qui n'est pas adéquat, et est-ce que peut-être elle ne frapperait pas des médecins ou à l'hôpital, elle est en prison pour violence en plus, des choses comme ça. Il me disait quoi? Qu'est-ce qu'il disait d'autre comme excuse? Des trucs de merde.
Mais du coup, à aucun moment, t'as pu sortir pour aller faire ta rééducation
Mais
après
c'est
ton...
qu'il n'y a pas eu de rééducation.
Ok.
Ça fait 3 ans que, enfin, je suis rentrée, ouais, je suis rentrée, j'étais en béquille, et maintenant ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai cet accident et je marche en boitant, j'ai des séquelles. Et voilà. Enfin, il n'y a pas eu de. J'ai gardé des séquelles de mon accident parce que la rééducation, elle a pas été assurée.
Bah, enfin, c'est peut-être un peu malvenu comme idée, enfin, je sais pas en fait, mais est-ce que tu t'as pas pensé justement à faire là aujourd'hui, vu que tu as des séquelles de ça, que tu as un handicap physique et
Ouais.
qu'ils n'ont pas assuré, ils t'ont pas autorisé, enfin, ils t'ont pas donné l'accès aux soins, enfin, tu vois, t'as pas eu d'escorte pour y aller, etc., qu'ils ont émis un jugement sur, finalement, sur les suites des soins que tu devais avoir. Est-ce que t'as pas pensé à faire un recours, par exemple, devant le tribunal administratif, par exemple?
Ben en fait, ben c'est ça, en fait, une procédure que
Là,
j'ai
en ce
lancée
moment?
qui... Comment?
Là, en ce moment?
Ouais, il y a en ce
D'accord.
moment, il y a une procédure qui est... Ça fait un petit moment que j'ai... Déjà, quand j'avais été transférée à Rennes, j'avais commencé à faire des démarches justement auprès du tribunal administratif et tout ça pour qu'un expert me voie et pour déterminer si voilà, le Poitiers pourrait être responsable des séquelles que je garde aujourd'hui.
Ouais.
Ok, et t'en attends quoi de ce recours? Est-ce que t'as espoir?
J'aimerais bien que leur culpabilité, elle soit...
Ouais.
Parce que pour moi, après, j'ai pas fait les choses bien non plus. Hein. Moi, je vais pas mentir. Hein. Je me suis pas soignée non plus correctement.
Ouais, mais
Mais
c'est toujours
à
compliqué de se
partir du moment où
soigner.
j'ai voulu en fait me soigner, eh ben, eux, ils ont pas accepté que je sois soignée normalement, en fait. Et c'est ça.
Et aussi, un autre des soucis un peu que tu as eu, que ce soit à Poitiers, puis ensuite à Rennes où tu as été transféré,
Ouais.
c'est ce truc de... Ben que je ne sais pas si c'est les surveillants ou l'administration qui voient d'un mauvais œil certaines relations et qui essayent de casser les amitiés, etc., d'empêcher les gens de se fréquenter.
Ouais.
Ça, c'est quand même un peu trash.
Ouais. Ouais, c'est bah ouais, ça c'est ouais, c'est quelque chose que j'ai connu autant à Poitiers qu'à Rennes. J'ai fréquenté des personnes et ça plaisait pas, je pense, plus au niveau de la direction, et ça nous mettait des bâtons dans les roues pour pas qu'en fait tout simplement à Poitiers, on m'a transféré pour plus que je fréquente la personne que j'avais envie de fréquenter. Et voilà, c'était. Ouais,
Ouais.
c'est ça, ils nous mettent. Ils acceptent pas que. Je sais pas comment dire, ils veulent choisir un peu avec qui tu dois. Ils veulent faire les choses à ta place, quoi. Enfin, ils veulent faire les choses à ta place, mais ils veulent qu'on fasse comme eux, ils veulent. Et nous, pas. Moi, j'étais avec des filles qui étaient super solidaires, ça, ils appréciaient pas la solidarité entre nous, tout ça. Et parce qu'ils voyaient que ça pouvait être dangereux, en fait, je pense. Le fait d'être solidaire, ça pouvait être dangereux pour eux. Et c'est pour ça qu'ils n'acceptaient pas ces fréquentations, hein. Pour moi, c'est ça.
Donc ils ont le
Je pense.
pouvoir de casser ça et boum, ils t'envoient
Ouais.
ailleurs, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça.
Ouais. Et donc ensuite, tu atterris au centre de détention de Rennes,
Ouais, Rennes.
qui est, si je me souviens bien, la plus grande prison pour femmes de France.
Ouais.
Ouais.
Pour femmes, ouais, Rennes. La Rennes, au début, ça se passait bien, on ne me prenait pas trop la tête. J'étais après un peu moins. Parce que à Poitiers, j'étais quand même un peu gamine et tout ça. Mais là, j'étais plus sérieuse, on va dire. Je travaillais, tout ça, j'allais à l'école sérieusement. Mais j'avais toujours mon caractère rebelle, mais ça se passait bien. Et après, j'ai fréquenté justement une personne qui, la prison, ben, ça ne plaisait pas. Et j'étais solidaire avec cette personne, ça leur a pas plu. Et de là, il s'est passé mais des choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Ils ont ouvert un. Comment on appelle ça? Les D1 là? Les D0? Je sais pas si vous
Ah oui,
voyez
c'est
les trucs
différencié.
d'isolement.
Ouais. Un étage un peu d'isolement.
Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ils ont ouvert ça. Ben, moi, j'ai été la cobaye en fait du truc.
Super.
Et
Bravo.
ouais, ils ont ouvert ça. Et
C'est.
ben,
Alors, c'est la
voilà.
première fois qu'on en entend parler, en tout cas pour des femmes, du coup. On savait que ça existait chez les hommes, mais on ne savait pas chez les femmes.
Et c'est... Ah ouais, mais à Rennes, en fait, ils ont mis ça en place le 1er juin. Et moi, j'ai atterri dans le 1er juin. Et ben, en secret, enfin, ouais, en cachette, ils m'ont fait la misère, quoi. Personne ne voyait rien, et en cachette, ils m'ont fait la misère. Et ça a fini, j'ai mis le feu au CDU, ils m'ont transféré à Nantes à 3 semaines de ma sortie.
T'étais toute seule dans l'étage ou dans le quartier, là?
Non, j'étais pas toute seule, mais il y avait la personne que je fréquentais, avec qui j'étais très solidaire et tout ça. Okay. Et il y avait cette personne-là qui était avec moi, et ils nous ont fait la misère en cachette.
Mais dans des cellules différentes?
Ouais, dans des cellules différentes.
Ouais.
Okay. Dans des cellules différentes.
En fait,
comment ?
Le D0, c'est comme un quartier d'isolement qui ne dit pas son nom, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est un quartier d'isolement, mais en fait, c'était le quartier d'isolement. Ouais. Bah, c'était pareil que le Mitter, même un peu. Mm-hmm.
T'étais enfermé 23 heures sur 24.
Comment ?
Là-bas, t'étais enfermé 23 heures sur 24.
Ouais, on avait une heure de promenade l'après-midi, une heure le matin. Et ouais, enfin, sinon, enfermé toute la journée. La journée, personne, des surveillants. Après, quand on sortait, on avait toujours deux surveillants, trois surveillants avec nous pour faire 20 mètres pour aller en promenade.
Ah ouais.
On était, enfin, à chaque fois qu'on sortait de la cellule, on était fouillé, palpé, détecté au machin, à la poêle.
Et tout ça, ça passe devant aucune commission, ce placement.
Non, justement, enfin, ils ont fait une commission, mais normalement, on aurait dû être, enfin, moi, j'avais regardé un peu des trucs, on aurait dû être prévenus un peu, et en fait, eux, ils nous ont dit, non, surprise, aujourd'hui, vous allez à l'isolement.
Et pendant tous ces jours, enfin, pendant tout le temps où tu étais au D0, en fait, tu n'avais aucun contact avec d'autres prisonnières, en fait?
Non, en fait, si, moi, je parlais par les fenêtres et tout ça. Enfin, on se débrouillait autrement, mais ouais, on avait interdiction de communiquer avec le reste des détenus, quoi.
Mais même sur les promenades, en fait, c'est des trucs où t'es toute seule, en fait.
Ouais, ben, c'est ça, ouais, c'est des promenades confinées, c'était spécialement pour ceux qui étaient à l'isolement. Et ben, c'était mal foutu, hein. Enfin, comme on était les cobayes et tout, ils n'arrivaient pas encore bien à gérer. C'était un peu marrant, parce qu'à chaque fois, on croisait du monde. Ouais. Ils n'arrivaient jamais à faire quoi en promenade, mais ouais, c'était le but, en tout cas, qu'on soit bien isolé du reste de la détention, que personne ne voit ce qui se passe, vraiment, et voilà.
Et à ce moment-là, ils vous font quoi comme genre de plan qui profite de l'isolement pour vous faire ?
C'était surtout des fouilles, pareil.
Ouais.
Surtout des fouilles, comme je te dis, après les fouilles par palpation, c'est chiant, tu vois, tous les jours, 3-4 fois par jour. Parce qu'on sort au moins 3-4 fois de la cellule par jour, tu vois. Et c'est chiant, tu en as ça, il y a des fouilles de cellules toutes les semaines, et ouais, c'est ça.
Ouais, de la pression, quoi, permanente.
Ouais, de la pression. Mm-hmm. Après, je vais pas mentir, les surveillantes avec qui nous... Parce que ouais, c'était un mois l'isolement au début, mais après, bon, ça a été prolongé et tout, mais la plupart des surveillantes, en vrai, ça se passait bien, mais il y en avait deux, trois qui profitaient qu'on soit là pour être dans la provocation bien et bien nous pousser à péter les plombs et tout ça, parce qu'on reste à l'isolement et tout ça. Et voilà.
Et aussi, une fois, pareil, quand on a discuté auparavant, tu as raconté une histoire que moi, je trouve assez significative. Ça m'a rappelé pas mal d'autres histoires où, en fait... Je sais pas exactement comment dire, mais ils essayent de mettre ta parole en doute à un moment pour te rendre un peu parano.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Mais justement, en fait, à Rennes, c'est surtout là que j'ai ressenti à Rennes, au quartier d'isolement, que je me suis dit tout ce qui me faisait, je me disais, et quand je passais en commission de discipline, mais je leur disais, vous me faites tout ça, c'est pas normal. Et il me disait, mais vous êtes complètement parano, vous vous sentez persécuté. Et à me dire ça, en fait, vraiment, moi, je me disais, mais c'est vrai, c'est peut-être moi qui... Tu sais, je sais plus ce que je fais, je sais plus si je gère ce que je fais. Vraiment, ça me retourne... Ils essayaient vraiment de te retourner le cerveau, en fait. Que... Ouais, c'est ça. Moi, je savais qu'à l'intérieur de moi que j'avais raison, que je n'étais pas en faute. C'est ceux qui faisaient plein d'actions. Et eux, ils mentaient, en fait, ils n'assumaient pas leur action, et c'est ça, en fait, ça se retourne le cerveau, ils essaient de te la faire à l'envers, et ça va, ils m'ont pas eu.
Ça, c'est bon. Eu.
Ça, ils m'ont pas eu.
Fallait être balèze pour pas se laisser avoir. Mais c'est vrai que moi, je trouvais ça important de toucher ça du doigt parce que c'est souvent, ouais. Je trouve que quand des gens qui sont en prison racontent ce qu'ils subissent, parfois on a du mal à les croire. Et en plus, ouais. Souvent, tous les personnels, et que ce soit même des fois des médecins, des profs, ouais. Ou l'administration pénitentiaire, les surveillants, essayent toujours de les faire passer pour fous, mentaux, ouais, ou parano.
Quoi. Et je te dis, tu vois, je t'avais appelé aussi pour ma pote et tout à Rennes.
Ouais.
Et elle, je te dis, elle, ils lui ont retourné ça, ils ont réussi à faire en sorte de lui donner toujours tort, tu vois, et elle a capté même plus ce qui se passait, tout ça. Elle n'arrive même plus à se rendre compte, parce qu'avec elle, ils ont vraiment réussi à lui retourner ça.
Ouais, donc elle, justement, pour resituer, donc c'est cette personne dont tu parlais avec qui t'étais pote à l'intérieur à Rennes,
ouais,
qui est toujours là-bas.
Ouais.
Et il y a quelques semaines, tu t'es retrouvée à essayer de faire quelque chose parce que tu étais super inquiète pour elle et
ouais,
sa situation.
Ouais, je m'inquiétais vraiment pour sa vie, c'est tellement. Tellement je m'inquiétais pour sa vie. J'entendais des trucs tout le temps, c'était pas possible.
Il lui arrivait quoi?
Je me disais, elle va mourir, tu vois, elle va mourir, elle va se pendre, ou je sais pas ce qu'elle va faire, elle va prendre trop de médicaments, je sais pas ce qu'elle va faire, mais ils l'ont tellement rendu folle que franchement, j'avais peur. Et ce qui était. Ouais, et je voulais qu'elle fasse transférer vite pour elle, quoi. Et là maintenant c'est bien, elle a été transférée, tant mieux pour elle. Elle va pouvoir reprendre un nouveau départ et après j'espère que ça ira mieux parce que je sais qu'elle reste en prison malgré tout et ça reste une rebelle et donc peut-être qu'ils vont lui faire la misère là où elle sera aussi, mais j'espère que ça ira mieux en tout cas.
Bah c'est déjà hyper bien d'avoir quelqu'un dehors, des gens dehors qui suivent et qui se préoccupent de ça quoi.
Ouais.
Justement, qu'est-ce que toi tu t'es retrouvée dans ce cas de pas mal d'autres gens qui se retrouvent avec un proche à l'intérieur pour qui ça va pas du tout avec l'administration ou les surveillants et qui on se dit putain qu'est-ce qu'on peut faire là de dehors et tout, qu'est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que t'as fait
Bah ouais c'est ça, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, après j'essaie d'écrire à des trucs du style OIP, les délégués défenseurs des droits.
Ouais.
Et j'avais écrit ouais, défenseur des droits, des avocats, j'essaie de contacter des avocats qui sont un peu pour qui essayent de soucier un peu du sort des détenus, qui sont pas comme. Et voilà. J'ai plein de choses comme ça, téléphoné à diverses. Je t'ai téléphoné, tu vois, ça. Tu m'as aussi.
Oui, bah, finalement, c'est surtout toi, peut-être, ou elle à l'intérieur qui ont réussi à faire bouger les choses.
Ouais. Je sais pas, du coup, alors, en tout cas, elle a été transférée, c'est ce qu'on voulait.
Ouais.
Mais ouais. C'est vrai que, ouais, quand on. Ouais, c'est pas facile pour des gens qui doivent soutenir leur famille et que si leur famille entend des choses comme ça, savoir à qui se diriger pour demander de l'aide, c'est vrai que c'est pas évident pour des gens qui. Pour des proches des détenus, de demander de l'aide s'ils voient qu'il y a des injustices et tout ça, des trucs pas bien, c'est pas facile.
Ouais. Ouais. Bah ça soulève peut-être une dernière question que moi j'avais envie de te poser. Je sais pas si t'as une opinion là-dessus, mais c'est sur autant on a l'impression que souvent il y a pas mal d'isolement à l'intérieur des prisons pour les gens qui ont des galères ou qui sont un peu en lutte ou en rébellion. Mmh. Et puis déjà ouais. Quelles sont les solidarités qui existent ou que tu aimerais voir? Et puis après, bah, pareil pour l'extérieur, on est vachement isolé quand on a un proche qui galère et qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi? C'est la question à 1000 points.
Comment?
C'est la question à 1000 points.
Ouais, c'est compliqué. À l'intérieur, la solidarité, il n'y en a pas beaucoup, mine de rien. Hein. Moi, j'aimerais qu'à l'intérieur, les filles, en tout cas, c'est les femmes, je pense. J'ai vu de la solidarité, mais j'en ai pas vu autant, quoi, la plupart des femmes. Après, c'est normal, comme je dis, c'est normal. La détention, l'administration pénitentiaire, elle a les armes pour dissuader, en fait, d'être solidaire. Et donc, je comprends toutes ces femmes qui disent, ben non, on peut pas. Enfin, moi, j'ai déjà demandé à des femmes, mais attends, tu vois, ils font ça, faut qu'on se bouge, si on se met tout ensemble, on va réussir à faire un truc, tu vois, si on est que 4, évidemment, c'est sûr, ça va rien faire. Mais si on est 10, 15, ça sera peut-être mieux, mais les femmes, elles ont peur, ouais, c'est ça, il y a les RPS, il y a les racondis, il y a tout, et La plupart des gens, ils n'osent pas trop. Mm. C'est normal, ils pensent à vouloir sortir, je comprends tout à fait.
Ouais.
Mais après, pour moi, il faut aussi garder sa dignité. Donc voilà, il faut être solidaire. Mm. Moi, je pense que c'est important d'être solidaire. On est tous dans la même galère, en prison. Faut vraiment, on vit toutes les mêmes... La même... Ouais, faut qu'on s'entraide, c'est sûr. Il y en a un petit peu, mais il faut qu'il y en ait plus, vraiment.
Ouais.
Donc s'il y a des gens qui entendent, je parle de la solidarité dans les prisons. Arrêtez de vous faire la guerre entre vous et ensemble.
Ouais. Quand par exemple à l'occasion du procès de Christine, il y a plusieurs prisonnières de Rennes ou ex-prisonnières qui ont voulu prendre la parole et témoigner, ouais. Non pas pour la mettre dans une position de victime ou quoi, mais justement pour raconter ce que c'est la détention et,
ouais.
et dénoncer ce qui s'y passe, c'était déjà un bon moment de solidarité, quoi.
Ouais, bah oui, c'est clair, ouais. Ça c'est sûr aussi que... Ouais, c'est vrai, plus il y en a qui dénoncent, et ouais, ça aussi,
c'est... Bah peut-être que plus il y a aussi un peu de soutien dehors, plus ça aide à se sentir solide à l'intérieur, aussi.
Ouais. Est-ce que j'aurais pu faire une dédicace?
Ouais, carrément.
Mais à l'administration pénitentiaire. Non, mais juste pour leur dire qu'ils m'ont pas eu et que je suis bien contente.
Bah écoute, on essaiera de leur transmettre. Je sais pas si ils écouteront, mais on essaiera de leur transmettre.
Et juste, ta pote, elle est où là maintenant?
Elle est à Joux.
Ok, et ben, pas d'autres dédicaces?
Comment?
Vous n'avez pas d'autres dédicaces pour le
Sinon, pour les détenus, voilà, qui pourraient être toutes les personnes détenues, garder la pêche. Hein. Moi, c'est ça qu'on dit chez moi.
On va te laisser avec une petite un morceau de musique que tu as proposé.
Ouais.
Un morceau de Kenny Arcana.
Ouais, c'est ça. Bah ouais, ça me correspond bien. Puis par rapport à ce que j'ai envie de dire, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà.
Tu disais que je faisais partie de ces gosses qui ne s'en sortiront jamais, intenables et bien trop féroces, qui salissaient ton sang plein d'obéir au doigt et à l'œil, qui n'avaient que des cendres et un besoin de vivre à 100 à l'heure. Tu te rappelles quand tu disais que j'atteindrais pas les 16 piges, que je finirais morte dans un coin de rue où j'y serais l'âme d'une gosse perdue qu'on n'avait plus rien à carrer, ou un avenir en cellule derrière les barreaux ou chez les tarés, connard. Tu te rappelles quand tu pensais clamer que j'étais bonne, qu'à fuguer, qu'à faire la conne ou à me défoncer, l'exemple à ne pas suivre que les lois haïssaient, pointer du doigt et qui puis ses 12 piges, n'ai plus scolarisé. Bref, la totale, tu te rappelles que quand tu parlais de moi, tu ne parlais jamais au futur. Putain, j'en avais marre des fois, toutes ces conneries. Mais regardez, sois pas dégoûté, mais je suis en vie et je regrette pas t'avoir jamais écouté. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, ou ceux qui sait tout, et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents. Connard, personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle et j'ai pas oublié, t'inquiète, ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement raquaient le peu d'espoir qui reste. Quand toi tu dis qu'il y en a plus, moi je m'en fous, j'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Tu te rappelles quand tu lui disais que mon cas était irrattrapable et que rejoindre de trois chemins, j'en étais bien incapable. C'était, on ne peut plus sauver cette sauvage, madame Foutifère. Mais qu'est-ce qu'il a cru, qui allait me sauver toi ou ton Lucifer? Qu'est-ce que tu croyais? Connaître les mots, ma base de dressage, mais toutes vos institutions mènent à la perte, tu captes le message. Alors, si tu crois toujours pour gagner l'obéissance, c'est par la force que ça se passe et que t'es toujours aussi insensé. Et connard, pour nous faire s'agir, c'était quoi tes méthodes? Ah ouais, droguer les mômes en gonflant leur tête de médoc. Et connard, trop facile de faire couper des neuroleptiques à des petits teigneux devenus légumes par ta camisole chimique. Et connard, à tes yeux, on était quoi tous? Juste de la mauvaise graine, hein, que t'écrasais histoire que rien ne pousse avec fourberie. Deuxièmement, chair de revanche, tu peux toujours prier ton diable qu'aucun d'entre nous se venge. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout, et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents. Connard, personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle et j'ai pas oublié, t'inquiète, ni tes coups de pute, ni tes belles paroles qui finalement raquaient le peu d'espoir qui reste. Quand toi tu dis qu'il y en a plus, moi je m'en fous, j'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Tu te rappelles lorsque tu ordonnais avec ta malveillance qu'aucun éduc ne devait me laisser une seconde sans surveillance, de peur que je parte, qu'est-ce qu'il y a? Tu croyais que j'allais me laisser mourir dans ton enclos ou attendre que quelqu'un vienne me secourir? Non mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on soigne un feu avec de l'alcool, marcher à la baguette, moi je t'en foutrais des piqûres d'aldol car tu avais pas le droit. Et ça tu sais très bien d'ailleurs, je pourrais traîner devant tes tribunaux des pratiques de tirailleurs, mais pensez pas, non mes principes là retournera pour toi aussi. Et tu te rappelleras ce jour-là de moi et des autres petits indociles, car y a une justice là-haut plus juste que votre système. Et on finit toujours par payer les effets des causes qu'on sème. Et connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, et connard, c'est à toi que je parle. Tu te reconnais, connard, et connard, c'est à toi que je parle. Et connard, c'est à
toi que je parle. Dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et de maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout. Et c'est surtout pour détruire les gamins ou les sports des parents qu'on a. Personne ne peut prétendre demain. Et qu'on a, c'est à toi que je parle. Et j'ai pas oublié, t'inquiète, ni t'écoute plus, ni tes belles paroles qui finalement raquettent. Le peu d'espoir qui reste, quand toi tu dis qu'il y en a plus. Moi je m'en fous, je t'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Et qu'on a, c'est à toi que je parle. Dis-moi, tu te reconnais, directeur.